Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média, de retour à son horaire habituel, 9h-11h. Au menu, médias et culture au sens large. Et quand je le dis, c'est pas pour rien. Tous les médias, toutes les formes de culture. On va parler d'un jeu vidéo phénomène, Animal Crossing phénomène, au point qu'il a même fait la une du Monde Magazine. On parlera également du groupe Gorillaz, qui a fait la une du Chasseur Français. Non, je déconne. Il y aura le journal des médias de Martin Cangelosi, le journal de la culture d'Hélène Manarino et le retour du portrait inattendu aujourd'hui d'Annie Boone. Nos invités ensuite, Philippe Googler, présentateur d'une émission mythique, faut pas rêver, elle fête ses 30 ans, elle est plus vieille que Martin et elle sera ce soir sur France 3 à 21h au menu, il mange des limaces, je vous jure que c'est vrai. Joël Dicker pour son nouveau roman L'énigme de la chambre 622, un meurtre dont on ne connaît pas l'auteur mais dont on ne connaît pas non plus la victime dans une chambre qui n'existe pas et je vous jure que c'est faux. Hier, on a eu un scoop, avant-hier un autre scoop, je vous jure que c'est vrai, on dit jamais 203, ça tombe bien, c'est l'émission 203.
Allez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, la voix que vous venez d'entendre, c'est la délicieuse Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
On fait des blagues et voilà comment on est accueillis. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Un blackout mondial, une chaîne de foot encore introuvable, une réforme de l'audiovisuel public mort-né et des rois et reines qui ont peur qu'on leur coupe la tête.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Eh bien c'est ainsi, depuis plusieurs semaines, Harry Potter s'impose encore sur TF1, 6 400 000 téléspectateurs, 28,3% d'audience, TF1 large leader devant France 3, une série française, Tandem, qui s'en sort quand même plutôt bien, 3,5 millions de téléspectateurs, 14,3% d'audience, juste ensuite M6 avec le film de Guillaume Canet, ne le dit à personne, 2,6 millions de téléspectateurs, 11,5% de part d'audience, et puis on notera quand même ce score de France 2 avec cette soirée spéciale féminicide, 2 millions de téléspectateurs, 7,9% d'audience.
Dépasser les 2 millions avec un sujet aussi difficile, bravo.
Culture Média.
Le journal des médias qui commence Martin avec les médias sociaux qui hier se sont fortement mobilisés pour dire stop au racisme.
Vous n'avez pas pu y échapper en ouvrant Instagram, des photos noires, toutes noires, du monde entier pour dire stop au racisme après la mort de George Floyd. On estime rien qu'en France, écoutez bien, à au moins 15 millions, c'est colossal, le nombre de photos et messages postés reprenant ce slogan américain « Black Lives Matter », la vie des Noirs compte, un mardi de blackout, repris en gros par les plateformes musicales sur leur page d'accueil. Spotify, Deezer ou Apple Music ont même proposé des recommandations de musique afro-américaine toute la journée pour dire « ça suffit, écoutez bien ». Say it loud, I'm black and I'm proud, clame-le, je suis noir et je suis fier. Cette chanson, vous l'avez reconnue, c'est celle de James Brown en 1968. Hier, c'était l'une des plus écoutées sur Spotify. Spotify qui a même rajouté à toutes ses playlists un silence de 8 minutes et 46 secondes. 8 minutes et 46 secondes, c'est le temps inimaginable pendant lequel ce policier de Minneapolis est resté agenouillé sur George Floyd.
Et pendant ce temps-là, sur le terrain aux États-Unis, le travail des médias et des journalistes qui couvrent les manifestations, pardon, une fois n'est pas coutume, devient compliqué.
Parmi ces journalistes, Amélie et son caméraman, tout droit venus d'Australie pour couvrir les manifestations monstres devant la Maison Blanche. Tendez bien l'oreille, c'est impressionnant.
Ils tirent des balles en caoutchouc, mon caméraman a été touché. Ils utilisent là des gaz lacrymaux. Voilà exactement ce qui est en train de se passer ici.
Oh. Wow.
Amélie, can you hear
Amélie, vous nous entendez?
Or your cameraman?
Vous nous entendez?
Hello, Amelia.
Ça va? Et votre caméraman? La police vient de toucher Amélie et son caméraman. On dirait que un policier vient de toucher notre caméraman.
Ce qui montre qu'ils ne font aucune différence entre manifestants et journalistes. Amélie, vous êtes là?
L'histoire est allée tellement loin que le premier ministre australien a même exigé une enquête de la part des États-Unis. Des journalistes molestés, c'est ainsi depuis plusieurs jours. Ce week-end, la correspondante de TF1 à Washington a, elle, été détenue dans une sorte de garde à vue improvisée avec son caméraman pendant plus de 2 heures.
Retour en France, on en parlait hier dans Culture Média avec en exclusivité le patron des sports de TF1, François Pélissier. Mediapro lance donc sa chaîne de foot avec TF1, un coup de tonnerre qui a fait parler toute la journée.
On sait le nom de la chaîne prévue fin août, on vous le révélait hier, donc Téléfoot. on connaît le nom de commentateurs Vicente Lizarazu et Grégoire Margoton. On connaît le prix de l'abonnement, 25 €. C'est ce que révélait hier le patron du groupe chez Nathalie Lévy sur Europe 1 toujours. Mais il reste encore une question que l'on se posait ce matin ici en studio. Comment pourra-t-on recevoir à Téléfoot ? Alors ce matin, on pose la question directement à Julien Bergeau, patron français de cette toute nouvelle chaîne. Bonjour Julien Bergeau, merci d'être avec nous sur Europe 1. On se posait cette question tout simplement, est-ce que des discussions par exemple ont été lancées avec Canal+, pour créer un bouquet, on le rappelle ? Désormais le week-end des septembre, vous diffuserez 8 matchs de Ligue 1, Canal+, plus que 2. Est-il toujours possible de s'allier avec Canal+, pour une offre commune, alors que TF1, pourrait-on dire, est entré dans la bergerie ?
Écoutez, nous avons l'intention de distribuer notre chaîne le plus largement possible. Donc oui, tout est possible. Nous n'allons pas créer un bouquet. En revanche, notre stratégie, c'est vraiment de proposer une chaîne 100% foot qui sera uniquement pour ceux qui sont fans de foot et qui veulent uniquement payer pour voir le football qu'ils adorent et qu'ils suivent tous les week-ends.
Les mêmes discussions sont possibles rapidement avec SFR, alors on imagine ?
Tout à fait, nous discutons, même nous avons des discussions déjà entamées avec la plupart des opérateurs, également avec les opérateurs de plateforme, les opérateurs de télévision connectée, de toutes les manières de consommer la télévision en OTT.
Julien, dernière question, le sujet est sensible mais rapidement. Bein a annoncé hier un plan social après cette annonce. 12 CDI, 8 CDD sont en cause. Est-ce que vous engagez ce matin à reprendre des journalistes comme vous dites le faire avec RMC Sport News par exemple ?
Écoutez, nous avons des journalistes qui sont aujourd'hui, qui travaillent déjà sur le projet, mais bien évidemment, nous allons pouvoir embaucher d'autres journalistes puisque nous sommes en train de constituer l'équipe. Donc effectivement, nous avons la capacité de pouvoir embaucher de nouveaux journalistes pour monter en charge sur notre projet et offrir la chaîne la meilleure qui soit à partir du mois d'août.
Téléfoot donc peut-être sur Canal, SFR, les autres plateformes et avec peut-être des journalistes de Bein. C'est en tout cas ce qu'on espère. Merci à vous d'avoir été avec nous, Julien Bergeau, ce matin dans le Journal des médias.
Merci à Julien Bergeau de la chaîne toute nouvelle Média Pro qui va se lancer cet été pour le début du championnat. On continue ce Journal des médias avec la grande réforme de l'audiovisuel qui a du plomb dans l'aile.
Elle devait dépoussiérer rien que ça des lois vieilles de 40 ans quand Netflix n'était pas encore là. Cette réforme devait passer au Parlement fin mars, mais entre-temps, la France a été confinée et depuis, aucune nouvelle date n'est prévue. Alors le gouvernement pourrait finalement désormais se contenter de faire passer quelques mesures au rabais sous forme d'ordonnance. Parmi elles, l'obligation pour Netflix et les autres plateformes étrangères de financer une part de la création française.
Il faut le rappeler, le gouvernement voulait créer une sorte de BBC à la française, justement.
Une holding pour chapeauter France Télé, Radio France, l'INA, France Média Monde, pour faire des économies et gagner, dit-on, en efficacité. Le projet annoncé en grande pompe est-il enterré ? On a posé la question à Aurore Berger, co-rapporteuse du projet.
Je crois que ça fait partie, encore une fois, des arbitrages qu'on doit rendre. Qu'est-ce qui est le plus urgent dans cette crise ? Je crois que le plus urgent dans cette crise, c'est d'abord la transposition des directives qui permettent d'avoir plus de ressources pour notre audiovisuel en général et que la question de la réforme de l'audiovisuel public, elle peut aussi exister sans qu'il y ait la holding.
Sans holding, le mot est désormais lâché. C'était pourtant l'un des gros chantiers du ministère. Quant à France O qui devait disparaître avec cette réforme, eh bien aujourd'hui, une grande plateforme numérique consacrée aux Outre-mer est lancée en prévision de la disparition du canal 19. Quant à France 4, c'est toujours le flou total.
Merci beaucoup Martin Cangelosi, on vous retrouve demain pour un nouveau Journal des médias.
À demain.
À suivre l'info média du jour avec au programme la disparition des éditions départementales du Parisien. On en parle avec notre invité dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est par Philippe de l'Info Média du jour.
Le Covid-19 a-t-il tué les éditions départementales du Parisien ? C'est en tout cas l'inquiétude au sein des rédactions locales du quotidien. Les pages départementales qui se trouvent d'habitude au cœur du journal ont été remplacées par un cahier unique régional mis en place pour cause de coronavirus. Une formule que la direction souhaite prolonger jusqu'en septembre, en dépit du retour à la normale, alors que le confinement est derrière nous. Hier, les salariés du Parisien ont tenu une assemblée générale pour demander le retour immédiat des éditions départementales. Ils ont laissé 24 heures à leur direction pour leur répondre. Pour en parler, nous sommes avec Aymeric Reynoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et élu SNJ, le syndicat national des journalistes, au Parisien évidemment. Alors, le Parisien, c'est la version Île-de-France, je dis ça pour ceux qui habitent en région, du journal Aujourd'hui en France. Il est construit ainsi, un cahier central avec 8 pages communes à toute la région. Il y a l'actu, les transports, l'immobilier, les loisirs, plus 4 pages spécifiques réalisées dans chaque département. Combien existe-t-il d'éditions parisiennes, ou plutôt combien en existait-il ?
Ah, il en existe toujours 10, ouais. Il y a 10 éditions parisiennes qui existent, réparties sur 9 départements. En fait, le Parisien, ça fonctionne, c'est un journal de la PQR, comme on dit, donc c'est de la presse quotidienne régionale. Ça marche comme Ouest France, par exemple, mm-hmm. avec des éditions et de l'information locale qui est ajoutée à l'information nationale par rapport à l'endroit où vous achetez le journal. Donc si vous achetez le journal dans le Val d'Oise, vous avez une édition du Val d'Oise. Si vous l'achetez en Seine-et-Marne, vous aurez une édition supplémentaire qui parle de l'actualité locale de votre département, en l'occurrence la Seine-et-Marne.
Mais ici, en ce moment, ces éditions spécifiques n'y sont plus, c'est bien ça. Il y a un tronc commun.
Alors non, tout est réuni dans un cahier unique, voilà. Donc de Paris et de l'Île-de-France en général. Donc on est passé d'un cahier, comme vous le disiez, de 4 pages de rédactionnel sur un département à 10 pages, mais sur tous les départements de l'Île-de-France, ce qui fait qu'on réduit considérablement la couverture éditoriale du titre Le Parisien.
Alors, il est 9h24, à l'instant où on se parle, est-ce que la direction a répondu à votre demande tard dans la nuit ou tôt ce matin ?
Eh bien, pas du tout. On n'a pas de réponse verbale. Nous, les délégués syndicaux qui ont été mandatés par les salariés pour rencontrer la direction et porter leurs revendications, on n'a toujours pas de réponse de la direction. L'ensemble de la rédaction a par contre reçu hier soir un mail signé du patron du groupe Les Échos, Le Parisien, de la directrice générale du Parisien et du directeur des rédactions du Parisien pour qu'ils expliquent un petit peu leur stratégie à venir dans les mois qui viennent, mais avec encore beaucoup de flou et des réponses qui ne calment pas l'inquiétude des salariés.
Alors je vais le citer, ce communiqué. Faisons alors de cette période un accélérateur des changements nécessaires pour rendre le Parisien plus fort. L'information locale fait partie intégrante de son identité. C'est important de le redire à l'heure où certains nous interrogent sur sa place demain. N'oublions pas cependant que notre identité et notre différence, c'est aussi d'être un grand titre national. Je m'arrête là, c'est vrai que c'est flou, quoi. Ça répond pas à vos questions spécifiquement.
Ah ben non, l'inquiétude des salariés, elle est simple. On a compris, on a accepté que cette édition unique soit mise en place pendant la crise du coronavirus. Ouais. C'est tout à fait compréhensible. La crise du coronavirus est derrière nous. Les gens, nos lecteurs achètent le journal pour avoir une promesse éditoriale de couverture locale qu'ils aiment lire. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'achètent. La direction décide de ne pas leur offrir cette qualité éditoriale, au moins jusqu'en septembre, et après, ne dis pas ce que vont ouais. être ces éditions mais, départementales.
Pardonnez-moi, mais
les rédacteurs veulent juste avoir un horizon, tout simplement.
J'ai bien compris, mais je vais me faire l'avocat de la rédaction, de la direction. Quand ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Si j'en crois Mediapart ce matin, il y a 30 millions de déficits en gros aux Parisiens, et c'est évidemment une question de moyens et la publicité qui ne rentre pas à cause du Covid. Vous avez évidemment conscience de ce contexte.
Bien sûr, mais c'est pour ça que nous avons entièrement compris et l'ensemble de la rédaction l'a compris et l'a accepté, l'édition de ce cahier unique. Maintenant, si vous voulez faire revenir la publicité dans ces éditions départementales, il faut bien ouvrir les pages. Sinon la publicité ne revient pas.
Parce que vous dire qu'il y a une très très grosse part.
C'est aussi bête que.
Vous voulez dire qu'il y a une
très. C'est aussi bête que chou.
Vous voulez dire qu'il y a une très très grosse part de publicité ciblée. C'est ça que vous voulez dire, comme j'imagine que la pub pour une entreprise du Val d'Oise n'est pas la même pub que pour une entreprise de Seine-et-Marne, qui sont deux éditions séparées chez vous.
Ben exactement. Si vous êtes un supermarché dans le Val d'Oise, vous voulez communiquer au lecteur, vous voulez dire au lecteur du Val d'Oise, venez chez nous. Le supermarché du Val d'Oise se fiche bien sûr des habitants du Val-de-Marne qui habitent à 100 km de là.
Évidemment. Ce que vous demandez, on l'a vu. Non, vous parliez du retour immédiat des cahiers départementaux. Ce n'est pas la seule chose que vous demandez. Vous demandez aussi, j'aimerais plutôt que vous me racontiez votre attitude par rapport au chômage partiel.
Alors ça, c'est un autre débat, ça. Le chômage partiel continue également aux Parisiens. On estime, et l'ensemble de la rédaction estime, que maintenant que la crise du coronavirus est derrière nous, le temps du chômage partiel doit être évolué, tout simplement.
C'est aussi ce que demandent parfois l'État et l'exécutif. Combien de votants étiez-vous hier? Il y avait une assemblée générale, vous étiez combien pour voter? Et qu'est-ce que ça a donné dans le rapport de force, les voix?
Alors, si je peux me permettre, je vais parler de cette assemblée générale. Nous l'avons organisée donc à la demande des éditions départementales. Et comme le télétravail continue d'être la règle au journal, nous l'avons organisé pour la première fois de l'histoire du journal par visioconférence, ce qui n'était pas une mince affaire. L'Assemblée générale a attiré plus de 200 personnes. On a été jusqu'à 230 personnes réunies en même temps. Avec les pouvoirs et les procurations, ce sont plus de 260 personnes qui ont voté. 263 personnes ont voté pour le retour immédiat des éditions départementales, 9 ont voté contre et une seule personne s'est abstenue. Donc le rapport de force, il est clair et net.
Émeric Renoux, je voudrais vous demander quelle action vous envisagez si vous n'obtenez pas gain de cause. Ce sera juste après ça.
On continue dans l'infomédia du jour à parler de la disparition des éditions départementales du journal Le Parisien. C'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Les éditions départementales du Parisien ont disparu pendant le confinement, remplacées par un cahier unique régional. Une formule que la direction souhaite prolonger au moins jusqu'en septembre. On en parle ce matin avec Émeric Renoux, journaliste et élu SNJ du journal, Philippe.
Et on l'a dit, vous demandez le retour immédiat des cahiers départementaux du Parisien et les effectifs nécessaires à leur réalisation, dont les pigistes qui doivent retrouver leur niveau de pige d'avant Covid et également l'arrêt du chômage partiel. Émeric Renoux, qu'envisagez-vous comme action si vous n'obtenez pas gain de cause?
Bah, tout est ouvert, on n'exclut rien. Il faut comprendre une chose, c'est que les éditions régionales au Parisien, c'est le cœur battant du journal. C'est-à-dire que c'est de là que partent énormément d'affaires, c'est de là qu'est née par exemple la première couverture des Gilets jaunes avec la pétition de Priscilla Ludowski par exemple, oui. Qui est en Seine-et-Marne contre l'augmentation des carburants. C'est de là qu'est partie toutes les histoires de morgue, de mort lors de la canicule en 2003. Sans ces informations-là, qui sont recueillies par des journalistes de terrain, le Parisien perd son âme. Donc, les journalistes des éditions départementales ont l'impression aujourd'hui qu'on leur vole leur âme. Ouais. Donc ils sont prêts à se battre pour ça. Parce que là, lors de l'Assemblée générale hier, il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu des journalistes qui ont pleuré. Parce que leur métier, ils l'ont à cœur. Si on leur supprime ça, mais quel est l'intérêt? Donc, dans cet état d'esprit-là, tout est possible. Alors, il y a la grève, évidemment. Ça, c'est le moyen classique.
Ouais.
Pas mal de salariés y pensent déjà. Et puis, il y a aussi d'autres moyens d'action, parce que on est dans un monde aussi numérique. Donc, il y a une pétition qui a été mise en ligne par quelques salariés, une initiative des salariés qui a été adoubée par les autres. Donc, sur le site change.org, par exemple. Donc, les élus, les associations, les gens avec qui ces journalistes sont en lien au quotidien, ont manifesté pour certains leur soutien et peuvent continuer à le faire en ligne. Il y a d'autres initiatives aussi qui vont être prises, toujours sur les réseaux sociaux, pour apporter de la visibilité à ce combat, qui va pas se gagner seulement en interne, mais en étant médiatisé au maximum. Évidemment, il y a la grève qui peut pointer le bout de son nez d'ici à la fin de semaine, ou dans quelques jours, ou à l'occasion, ou pour signaler à la direction que pas d'édition départementale au mois de juin, ça veut dire une couverture des élections municipales du 28 juin, du deuxième tour des élections municipales, amputée de la plupart des papiers en local.
Évidemment, c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas passer tous les papiers de tous les départements dans chaque édition.
Mais non. Et imaginez, vous avez... Alors, évidemment, l'élection parisienne de Paris va intéresser un peu toute l'Île-de-France. Mmh. Mais je prends un exemple. L'élection à Cergy-Pontoise, vous croyez que qu'un lecteur de Créteil a un intérêt particulier à lire quelque chose sur l'élection de Cergy-Pontoise dans le Val-d'Oise? Pas vraiment. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'élection à Créteil. Il veut avoir les tenants, les aboutissants. Mmh. Il veut comprendre. La crise du coronavirus, aujourd'hui, impose, pour ce deuxième tour, pas de réunion publique. Alors, il est où le débat? Où est-ce qu'il se fait le débat des élections municipales?
Alors, je vais vous dire ce que tout le monde répond. Je me permets de répondre à votre question, qui est une question rhétorique, mais qui est aussi une vraie question. Il va se faire sur le web, ce débat. Est-ce que les éditions départementales du Parisien continuent à travailler comme elles le faisaient précédemment sur le web? Est-ce qu'on peut suivre dans son département le 77 ou le 94, l'info du 77 ou du 94 sur le site du Parisien?
On peut le faire.
Donc ça continue. Mais, c'est simplement l'édition papier qui ne sort pas en kiosque.
Mais, exactement. Est-ce qu'on peut écouter Europe 1 sur le web ?
Évidemment.
Mais on oui, a que. Mais ben, on a... Est-ce qu'on peut l'écouter en FM aussi ?
Oui, mais on n'a qu'une seule édition. C'est ça la différence.
Exactement. Sauf que si vous commencez à amputer l'un pour faire profiter l'autre, vous allez perdre une de vos deux jambes. Mmh. C'est exactement le problème qu'il y a aujourd'hui. Le problème du Parisien, c'est justement sur le web, on a 10 ans de retard. Nos précédents propriétaires, le groupe Amaury, n'avaient pas investi, n'avaient pas voulu rendre la production des journalistes du Parisien payante sur le web. On s'est fait doubler, on a attendu trop longtemps, et maintenant on en récolte tous les déficits de cette situation-là.
Permettez-moi de vous interrompre, presque tous les journaux sont plantés, ceux qui ont fait du payant sont plantés, ceux qui ont fait du gratuit sont plantés, à de rares exceptions près, beaucoup de journaux se sont plantés.
Sauf qu'aujourd'hui, tous les journaux sont en train de perdre des lecteurs papier. Mmh. Sauf que, prenons l'exemple du Monde. Le Monde a plus de 200 000 abonnés numériques. Ouais. Le Figaro en a plus de 130 000.
Et
nous, on est à 37 000. 37 000, vous vous rendez compte? Et on a doublé en un an. On a doublé en un an. Ce qui fait que ce que l'on vend en papier représente plus de 80% de nos revenus. Donc si vous commencez à tuer le papier, ben vous tuez le journal.
J'ai bien compris. Je dois dire que vos revendications...
Ce ne sera peut-être pas le cas dans 15 ans. Ce ne sera peut-être pas le cas dans 15 ans. Mais là, aujourd'hui, il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre.
Ce sera ma dernière question. On comprend que vos revendications ne sont pas hors sol. Vous ne contestez pas l'adaptation éditoriale. Vous savez qu'il y a la crise du coronavirus qui s'ajoute à celle de Prestalis. Ce qui vous inquiète, c'est la suite. Vous dites que c'est toujours le flou qui prédomine, auquel s'ajoutent des sous-entendus troublants. Quels sont ces sous-entendus troublants dont vous parlez ?
C'est la politique des petits pas. On essaye un petit peu là, on enlève un journaliste ici, on voit ce que ça donne. Et petit à petit, on se rend compte que la stratégie, c'est d'amoindrir ce qui coûte cher, parce que fournir une information de qualité, ça coûte cher, évidemment. Et donc, la cible, ce sont les éditions départementales. Et donc, l'angoisse des journalistes des éditions départementales aujourd'hui, elle est là. Qu'est-ce qu'on va faire de nous ? Et qu'est-ce qu'on va devenir dans un an et demi, et là, la direction ne répond pas. On a une question simple.
La direction a précisé qu'elle allait faire des annonces. Elle allait faire des annonces à la mi-juin, qui concernent le journal dans sa globalité.
Ouais, très bien. Eh ben, on est tout à fait prêt à discuter de ces annonces, de ces stratégies, de ces projets. En attendant, remettez les éditions départementales pour que les lecteurs du Parisien aient une couverture éditoriale complète et la hauteur du prix qu'il paye le journal, notamment pour s'informer du deuxième tour des élections municipales le 28 juin. Et puis on reparlera après, courant juin, pendant l'été et en septembre, de l'avenir du journal et de comment la direction veut organiser tout cela. Il n'y a aucun problème.
Merci beaucoup, Aymeric Reynoux.
Je vous en prie.
Merci beaucoup, Aymeric Reynoux. Je rappelle que vous êtes journaliste et élu SNJ, syndicat national journaliste au Parisien. Évidemment, la direction du Parisien nous écoute. Si ce n'est pas maintenant, ça sera en podcast. Évidemment, notre porte est ouverte et ce micro est ouvert pour eux quand ils veulent à leur guise.
Notre prochain invité, Philippe Googler, il présente Faut pas rêver sur France 3 et nous fait ce soir découvrir le Périgord. On en parle avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, on accueille Philippe Googler.
Et on va rêver. Bonjour Philippe Googler.
Bonjour.
Pourquoi je dis ça ? Parce que vous présentez 2014 une émission mythique, Faut pas rêver. Émission qui fête ses 30 ans avec un numéro ce soir. Ça sera sur France 3 à 21h. Le titre, c'est Voyage en Périgord. Vous l'avez tourné quand ?
On l'a tourné il y a 3 ans.
Ah, super.
C'est une émission qu'on va revoir.
Ouais.
Parce que, comme vous savez, on a été un petit peu privé de voyage ces derniers temps.
Ouais.
Donc, le temps de remettre la machine en route, on propose de repartir vers une de nos plus belles destinations.
Alors, je plaisante, mais évidemment, j'ai vu l'émission, donc j'ai vu que personne ne portait de masque. Pourquoi le Périgord plutôt ? Qu'est-ce qui reste à découvrir ? Qu'est-ce qui restait à découvrir au Périgord, qui est quand même un endroit battu et rebattu, tant cette région est splendide ?
Alors, d'abord, le Périgord, rien que quand vous prononcez le nom, ça fait envie, c'est savoureux, c'est lumineux, il y a cette lumière douce, dorée, et c'est d'abord une garantie d'image magnifique. Franchement, ouais. La réalisation, c'est Alex Badin qui l'a faite, est sublime.
Je vous arrête tout de suite, parce que moi, je regarde Faut pas rêver, c'est toujours sublime.
Oui.
J'en ai pas vu une seule de moche, franchement.
Ah, j'aime bien, j'ai bien fait de venir.
Non, mais c'est vrai,
Je viendrai plus souvent.
C'était très beau, mais elles sont toutes, elles sont toutes vraiment très belles.
Elles sont toutes très belles. Hein? Mais c'est une c'est de la matière première de Faut pas rêver. C'est la belle image, le goût de l'esthétique et surtout les rencontres humaines, parce que vous me dites le Périgord s'est battu, rebattu. Mais non, il y a des personnages toujours à découvrir et à redécouvrir qui sont fabuleux. Par exemple, là, au début, on part en montgolfière avec un gars qui s'appelle Patrick et qui est capable de descendre avec sa montgolfière
et de gratouiller les arbres. C'est juste dingue. Je pensais même que c'était interdit.
C'est-à-dire qu'il passe, il flirte avec le sommet des arbres. Il a flirté au sommet de noyer, ce qui a permis aux gens en dessous de récolter quelques noix. Et puis surtout, il m'a emmené au-dessus de la Dordogne. Il est descendu quoi, à 50 centimètres au-dessus de l'eau. Et sur le cours d'eau, comme ça, il y a un courant d'air qui pousse la montgolfière le long de la rivière. Ce qui fait que vous pouvez passer au-dessus des bateaux comme ça et rester longtemps au-dessus de la rivière. Partir jusqu'au Massif central, si vous voulez.
Vous racontez ça, c'est doux, c'est bucolique dans vos mots, mais en fait, le reportage qui démarre par ce sublime voyage en ballon dirigeable, l'atterrissage, c'était violent. Je savais même pas que ça se passait comme ça.
On se tient devant ou derrière ?
Là, maintenant, ça va faire boum, boum, restez appuyé, reboum, reboum encore. Un métier, ça, monsieur.
Oh, mon Dieu !
Vous restez dans la montgolfière. On va atterrir maintenant.
Ah, parce qu'on n'avait pas atterri encore. Oh mon Dieu!
Voilà, vous restez tranquille, vous descendez pas de la nacelle, s'il vous plaît. Voilà. Pas mal. Ça, c'est un atterrissage énergique.
On a vu que vous avez eu peur, vous êtes fait mal ou pas?
Non, je me suis pas mal, mais vous êtes agenouillé, recroquevillé au fond du panier parce qu'il vous a prévenu que ça allait être un peu solide. Et donc, vous savez pas où vous en êtes, ça se coud dans tous les sens, vous basculez.
Ouais. Mais on voit jamais ça, c'est lui qui pilote comme un dingue.
Ah,
on est bien d'accord. Alors, je vais dire que l'exotisme, c'est pas seulement dans les pays exotiques. Là, vous avez visité un lieu exceptionnel, c'est la grotte de Villars, 13 km de galeries souterraines avec des peintures rupestres qui datent de l'homme de Cro-Magnon, pas loin de grotte préhistorique, au bord d'une rivière. Et vous avez testé des recettes préhistoriques et vous avez mangé un aliment, je ne savais même pas qu'il était possible de manger ça.
Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Des limaces ?
Hein ?
Des limaces.
Des grosses limaces rouges.
Bah oui, elles ont exactement le même goût qu'un escargot. Hein.
Donc les hommes préhistoriques mangeaient ça ?
Bien sûr. Vous savez, en période de disette, on est prêt à manger tout. Hein.
Franchement, même en ayant très faim, j'ai jamais pensé à manger des limaces.
Hein. Niveau protéines, la limace est reconnue. Et ensuite, vous savez que la bave d'escargot soigne aussi la toux et tout ça.
C'est la bave d'escargot.
Ah oui. C'est, on fait les premiers sirops pour la toux étaient à base de bave d'escargot.
Ah bon ?
Ah bien sûr.
Et ça s'accommode avec le poisson, ça va ensemble.
Ouais, ben on profite de la braise autour du poisson pour faire quelques limaces à l'apéro en attendant que le poisson.
Ah la limace c'est pour l'apéro.
Ah oui, c'est la limace d'apéro. Ça,
d'accord. Hein.
Alors là, j'ai pas tout spoilé. Et après, vous goûtez à la limace d'apéro, faites une sacrée drôle de tête.
Ben, alors, moi j'ai appris un truc en goûtant des tas de trucs autour du monde. Ouais. C'est qu'il faut, pour réussir à manger des trucs ignobles,
vous l'avez dit,
il faut se dire avant, et après ça va beaucoup mieux, il faut se dire, c'est pas parce que c'est moche ou c'est pas parce que ça pue que c'est mauvais.
D'accord.
Donc, parce que des fois, il y a des choses très laides qui sont très bonnes. Alors là, j'ai goûté la limace. Ben vous verrez dans l'émission, mais je pense pas que c'est dans la catégorie. Je pense que la gastronomie périgourdine a fait beaucoup de progrès.
Alors oui, justement, qui dit Périgord et gastronomie dit truffe. Pour chercher les truffes dans le sol, moi je connaissais la technique du chien truffier. Oui, du truffier, pardon, ou du verra, c'est une sorte de cochon. Vous avez trouvé mieux grâce au pape de la truffe, il s'appelle Édouard Hénault.
Chercher des truffes comme ça à quatre pattes.
Ouais, mais non, parce qu'il y a une mouche spéciale truffe. Elle va venir, ensuite elle va poser des œufs.
Ouais.
Trois jours après, il y a les œufs qui éclosent et il y a des asticots qui vont descendre dans la terre, rentrer dans la truffe qui est la terre et la bouffer.
Ah bon, c'est une mouche repéreuse de truffes.
Voilà.
Vous cherchez la mouche, là?
Là, je cherche à savoir s'il y a une mouche par là pour savoir s'il y a une truffe de mur dans la terre. C'est tout bête. Pour la faire décoller, sinon je la vois pas.
Ah, ok. Mais ça se voit une mouche, normalement?
Non, elles sont comme la couleur des feuilles mortes, là. Elles sont marron. Et ça, c'est une technique qui est géniale.
Alors déjà là, Philippe Googler, vous chuchotez comme si vous étiez dans la chasse aux guépards, alors que c'est que des mouches, bref. Finalement, aucune mouche ne décolle, et alors le gars se met à quatre pattes, et il trouve une mouche enfouie dans la terre, rien qu'en reniflant le sol. Pendant ce temps-là, il a son chien. Le chien a un odorat 100 fois plus développé que l'homme. Le chien n'a strictement rien à faire de ce qui se passe là. Il est le nez au vent, c'est le cas de le dire. Et je me dis, mais là, c'est la trappe gogo pour les citoyens, c'est pour les citadins, je veux dire. Franchement, là, on nous prend pour des truffes.
Non, très bien.
Humour.
Joliment. Non, mais c'est vraiment une technique. Mais la technique des mouches, il faut regarder s'il y a des mouches à truffes sous votre chaîne.
Non, j'ai bien compris. Mais le gars qui renifle par terre à quatre pattes par terre.
Si, ça sent la, il me l'a fait faire. Ouais. Il renifle et ça sent la truffe.
Et depuis, vous avez trouvé d'autres ?
Alors, on a cherché. On a été beaucoup à quatre pattes.
Et en fait, allez, dites-le, vous avez trouvé aucune comme ça.
On en a trouvé une ou deux.
Allez.
Mais en fait, on renifle l'odeur de la truffe directement. Sûr, à côté du chien qui se marre parce que lui, il a bien compris qu'il y en aurait que deux.
J'ai bien compris. Vous savez ce que je fais, moi ? Je renifle l'odeur de la pause.
Voyage en Périgord, ce soir sur France 3, c'est dans votre émission Faut pas rêver, présentée par Philippe Googler, notre invité. On continue à en parler avec lui dans un instant sur Europe 1. En attendant, messieurs, vous reprendrez bien une petite limace ?
Ah oui, c'est la limace d'apéro. Ça.
D'accord.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Philippe Googler qui est notre invité. Il présente Faut pas rêver sur France 3. Et ce soir, il nous propose une balade dans le Périgord, Philippe.
Alors, on a parlé de gastronomie et on va parler aussi de l'accueil de cette région, la fascination qu'elle inspire chez d'autres pays européens, chez d'autres habitants. Il y a une forte colonie britannique dans le Périgord. Vous avez rencontré un Écossais, un écrivain qui s'est installé là-bas depuis 20 ans. C'est l'écrivain Martin Walker. Vous êtes avec lui au volant de sa deux chevaux. On entend le bruit de son de la deudoche. Et il vous raconte qui sont ses potes et de quelle nationalité.
Quand vous êtes arrivé dans la région, vous avez tout de suite été bien reçu. Comment ça s'est passé ?
Ici, on a reçu un accueil très chaleureux et on a trouvé beaucoup d'amis, beaucoup de bons copains ici.
C'est-à-dire que vos amis sont plus britanniques ou plus français ?
Ah non, pour la plupart, c'est français. Et oui, j'ai des amis britanniques ici, mais en général, c'est les français parce qu'ils ont plus intéressants.
Vous dites que les Français sont plus intéressants que les Britanniques.
Surtout pour moi, parce que c'est différent.
Et en plus, plus exotique.
Plus exotique, et en plus, la bouffe, c'est meilleur.
La bouffe, c'est meilleur.
Bah oui, c'est vrai.
Et alors, comment on fait dans ces tournages ? Parce que ça doit y aller, non ?
Ah ben, c'est le problème numéro un de ce métier.
Racontez, blague à part, racontez.
Ah mais, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez chez quelqu'un, il vous accueille à bras ouverts, il ne reçoit pas la télé tous les jours. Mmh. Donc, eh ben, il faut goûter la terrine, il faut goûter le bon vin, il faut goûter le plat, etc. Et c'est vrai que le pire tournage, ce n'est pas le Périgord, c'est un que j'ai fait récemment en Franche-Comté. Mais je vous jure, c'était fondu ou raclette, midi et soir, avec vin du Jura. Et c'est fait avec tellement d'amour quand vous arrivez. Et puis en plus, les gens ont préparé la table. Vous n'allez pas leur dire, ben non, je prends un légume vapeur.
Mais non, mais c'est pas ça le problème. Vous venez de quelle région ?
De Franche-Comté, justement.
Voilà, c'est ça le vrai problème. C'est que vous ne pouvez pas dire non. Sinon, vous passez pour un salaud.
Pour un salaud. Et donc, vous rentrez, mais je vous jure, c'est 3 kilos, mais réel, direct. Hein. Et donc après, il faut
par
faire
journée de tournage ?
Non, pas par jour. Parce que... mais après, il faut les perdre, puis après, ça recommence, c'est infernal.
Combien de jours de tournage pour un épisode comme celui-ci ?
En général, c'est une quinzaine de jours.
Ah, une quinzaine de jours
ouais.
quand même
ouais. Ah oui, plus, alors, puis il y a deux choses. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle, nous, les séquences incarnées où j'apparais, puis il y a les reportages qui sont tournés en plus, à part. Oui, c'est du travail d'orfèvre et long.
Ouais, on voit notamment une séquence avec des chevaux récupérés de la Horse Guards, des trucs dingues. Oui. Des chevaux qui maintenant vivent, terminent leur vie dans le Périgord, alors qu'on les a vus totalement malmenés dans des émeutes en Angleterre en 2011, dont des chevaux que des manifestants s'amusaient à envoyer des rayons laser dans les yeux pour
ça
les aveugler.
Ça stresse énormément. Énormément.
Les prochains, ça sera quoi ? Les prochains tournages, ça reprend quand ?
Alors, on reprend tout doucement. Là, il y aura un tournage avec ma consoeur Carolina qui présente l'émission en alternance avec moi en Corse très bientôt. Et puis, moi, je reprends les tournages de Faux pas rêver en septembre avec un tournage en Auvergne, dans les volcans, enfin autour des volcans.
Ouais.
Et puis.
C'est avec du fromage, quoi, en gros.
Et voilà.
Du saucisson d'Auvergne.
Et puis, dans la Drôme, des tournages forcément un petit peu plus intimistes, avec moins de gros rassemblements, parce que la période le veut. Mais pareil, toujours de la très belle image et beaucoup d'humanité.
Vous êtes du genre à regarder l'audimat ?
Bah oui, bien sûr, parce que moi, je fais pas de la télévision pour personne. On est toujours content quand on a un peu de succès. Après, c'est pas une obsession.
Mmh. Ah oui, vous avez dit à l'Express qui vous a demandé, vous avez dit « Mon intérêt n'a rien de commercial, c'est le bonheur de faire plaisir au plus grand nombre qui m'enchante. » Je me dis « Ce gars, c'est Mère Teresa. Il veut faire le bien autour de lui. »
Bah, Mère Teresa, ça me va, hein, j'accepte.
Vous présentez également une émission qui fait complètement rêver, c'est Des trains pas comme les autres, qu'on est à sa 9e saison, ça va continuer à la rentrée, il y aura une 10e saison.
Ah, c'est la 10e là qui va passer là cet été.
Ah d'accord, ça commence là avec la 10e.
Ouais, elle va passer, pareil, c'est une émission formidable qui marche bien, qu'on fait vraiment à notre patte, comme on a envie de la faire avec beaucoup d'amour. Et cette année,
allez-y.
On va partir donc en Éthiopie, on va partir partir au Panama, en Géorgie, tout ça à partir du mois de juillet.
C'est tellement beau cette émission. En même temps, il y a quelque chose qui me gêne, je vais vous le dire. Moi, j'adore les vraies lignes de train. Par exemple, la ligne entre Gap et Grenoble, si vous la connaissez, une ligne de montagne que la SNCF aurait peut-être fermée parce qu'elle n'est pas très très rentable, mais c'est juste sublime. Et ce que j'aime moins, c'est les lignes faites pour les touristes. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime quand ça vit pour de vrai. Est-ce que vous partagez cette différence que je fais?
À 100%. Parce que ce qui est plaisant dans un train, c'est d'y faire des rencontres. Parce que le train, on a le temps de rencontrer et de parler aux autres. Et quand vous vous retrouvez au bout du monde dans un train qui est rempli de touristes, eh bien, les échanges sont plus difficiles parce que les touristes, ils sont là, ils prennent du plaisir, ils ont bien raison d'être là. Mais c'est plus difficile d'avoir un échange. Ça va être vite, c'est beau, je suis content d'être là, je suis en vacances. Mais ça ne fait rien découvrir en ce qui me concerne du pays. Ouais. Et donc, du coup, je suis toujours un peu moins heureux dans un train touristique que dans un train normal. En revanche, les trains touristiques, eux, sont souvent dans des paysages sublimes. Donc, c'est l'occasion d'une très belle balade.
Voilà, et donc, pour rappeler ce petit train Gap-Grenoble, c'est un train normal dans un paysage touristique. Et c'est tout ce qu'il y a de formidable. Vous connaissez les plus beaux endroits de France ou du monde? Où est-ce que vous avez choisi de vivre votre confinement?
Ah! Eh bien, vous savez, le plus bel endroit du monde pour vivre mon confinement, c'était auprès de mes proches. Parce que, en fait, comme je voyage beaucoup, je suis absent 7 ou 8 mois de l'année, ça a été, pour moi, le confinement, ça a été le bonheur de passer beaucoup de temps avec eux.
C'était où alors?
Eh bien, je ne vous le dirai pas.
Ah bon, pourquoi? Non, ça dépend des proches. Mais alors, vous venez d'où? Il paraît que, suivant les papiers, vous venez de Besançon, d'autres du Jura, d'autres de la Franche-Comté. C'était quand même dans ce coin-là ou c'est des nouveaux proches qui ne sont pas là?
J'ai pas compris. Et répétez la question.
C'était où? Mais c'était le Besançon, le Jura, la Franche-Comté, où j'ai l'impression que j'ai mis le doigt sur un sujet qui peut fâcher.
Non, mais c'est familial, c'est un peu compliqué.
D'accord, oh là là, je ne veux pas rentrer dans ces histoires-là, vous réglerez ce problème avec Mireille Dumas. Vous vous souvenez de vos débuts à la radio?
Oui, mes débuts à la radio, c'était quand j'étais tout jeune, dans une radio libre à Besançon, et j'allais avec ma petite mobylette orange, et à l'époque, ils me payaient en essence pour ma mobylette.
C'est pas vrai?
Ouais. Et j'étais super content. Moi, j'avais l'essence gratuite de ma mobylette. C'était génial.
Vous l'avez toujours, la mob?
Elle doit être dans un vieux garage quelque part.
Hier, écoutez bien, parce qu'hier, on a reçu le patron d'un journal de brocante, dans le nom Antiquité Brocante. Et vous savez quoi? Ils sortent un mensuel spécialement dédié à la mob qui revient à la mode.
Ah oui? Ah bah, faut que je vois ça.
Mais c'est quand même dingue. Je me dis, mais qui sont les fous qui ont toujours des mobs? Il y en a un, il est devant moi. Il s'appelle Philippe Googler. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, faut pas rêver ce soir à France, sur France 3 à 21h. Et votre famille, les proches, on veut pas savoir où sont. Vous inquiétez pas, c'est pas ici, on va pas cafeter. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h, place à la culture. Nous serons avec l'écrivain Joël Dicker qui vient de sortir son nouveau roman, L'énigme de la chambre 622. Une histoire sur fond de triangle amoureux, de jeu de pouvoir, de trahison, mais pas que. Et puis dans les indispensables, un anniversaire, le groupe Gorillaz, 20 ans, Angèle Châtelier va nous en parler, elle va souffler sur les bougies. Et puis des jeux vidéo qui deviennent de nouveaux médias. Comment est-ce possible? J'ai vu ça, c'est juste stupéfiant. Réponse avec Clément Le Saffre. Dans un instant, le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et en fin d'émission, le meilleur de ses portraits inattendus. Aujourd'hui, Danny Boone, juste après ça.